Bubba Wallace here from 2311 Racing. You know what's slower than a pace car? Waiting at the car wash. That's when I fire up Chumba Casino. It turns those slow minutes into fast fun. With new games every week, you'll never get bored. Next time you're stuck in the slow lane, speed up with Chumba. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Peut-être débuter sur la défaite morale pour l'Occident. Ce conflit, cette guerre, cette école, par exemple, de jeunes filles. Ça y est, les Américains semblent reconnaître que c'est bien un tir américain qui est à l'origine de plus de 150 morts.
Bon, l'école de jeunes filles, c'est malheureusement un détail, puisque les États-Unis visaient le bâtiment à côté, celui de la base des gardiens de la Révolution, la base maritime qui contrôle le détroit d'Ormuz. Mais la défaite morale, elle est d'abord dans le fait d'avoir soutenu les Israéliens quand ils ont assassiné le guide de la Révolution, Ali Khamenei. Alors on nous le présente aujourd'hui comme un tyran, mais ça n'est pas vrai du tout. Et c'est d'abord le chef spirituel de centaines de millions de chiites. Donc si Israël avait bombardé le Vatican et tué le pape Léon XIV, ça serait la même chose. Oui, c'est une défaite morale.
Ouais. Merci Thierry. Édouard Husson, défaite morale?
Oui.
Faillite morale.
C'est ça, parce que, si vous voulez, ça n'est pas une loi écrite du droit international, c'est pas dans les conventions de Genève, mais depuis au moins le XVIIe siècle, il y a une coutume qui veut que dans une guerre, on ne vise pas le chef de la puissance adverse. Pourquoi ça? Parce que l'expérience de la guerre qui a été celle de l'Europe a prouvé que les choses peuvent dégénérer très vite. Et puis, vous savez, il y avait eu les guerres de religion, on avait assassiné des souverains. La guerre de religion, tiens, d'ailleurs, c'est intéressant, puisque c'est comme ça qu'on justifie l'assassinat de l'ayatollah Khamenei. Et donc, il y avait cette sagesse des nations, et il me semble que Donald Trump n'a jamais pris la mesure de ce qu'il avait fait en janvier 2020, quand il avait assassiné le général Soleimani, qui n'était pas un chef d'État.
Non.
Mais déjà, ça montrait qu'il y avait un seuil qui avait été franchi. Et alors, on pouvait se dire, lors de son deuxième mandat, il annonçait la paix, il annonçait qu'il renonçait à faire la guerre, etc. Et donc, des choses comme ça ne pouvaient pas se passer. Et là, visiblement, il y a un seuil qui a été franchi. Je crois qu'on ne se rend pas compte, ici à Paris, et si on dit que nous sommes l'Occident, on ne se rend pas compte de l'horreur de la révulsion dans l'ensemble du monde face à ce geste. Il y a des choses qu'on ne fait pas, tout simplement. Et je trouve que la comparaison donnée par Thierry Messant sur « c'est comme si on avait tué le pape Léon XIV », mais c'est pas faux, loin de là.
Et ils vont même jusqu'à dire maintenant « le prochain, on le visera et on l'éliminera de la même façon ». C'est non seulement on tue Léon XIV, là en l'occurrence, si on veut faire un parallèle, et vous n'aurez plus de pape.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, en fait, l'Occident, c'est le dernier lien qui existait entre Occident et civilisation a été rompu. Et ça, c'est terrible.
On est bien d'accord. Alex Reiner, je vous ai vu dans une vidéo dernièrement dire vous-même que vous n'en reveniez pas Ça vous paraissait totalement impossible ou impensable que les États-Unis attaquent l'Iran, et vous en êtes même revenu dans cette vidéo en disant « Mais finalement, je pensais totalement inimaginable que Trump puisse faire telle ou telle chose, telle que par exemple les 90 drones envoyés sur une résidence de Poutine. Eh bien, je me rends compte que peut-être que si, finalement. » Là, il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de la faillite morale pour l'Occident et l'Amérique.
Oui, en effet, malheureusement, je pense que ils ont commis un échec peut-être fatal pour la présidence de Donald Trump. C'est ce qu'ils ont fait à Iran, c'est tellement grave que ça met tout le reste de ces politiques en doute. Et même l'attaque à la résidence de Poutine, parce que à l'époque, quand ça s'est passé, je ne pensais que c'était Poutine. J'étais plutôt incliné de croire que c'était les Ukrainiens avec les Britanniques MI6 qui sont visés la résidence. Maintenant, on ne peut plus le dire, il est tout à fait possible que c'était les Américains qui ont dit. Mais un aspect très troublant de tout ça, c'est que j'ai une impression un peu que Trump ne contrôle plus la situation. Et la Maison-Blanche essaye de donner l'impression qu'il contrôle la situation, mais hier ou avant-hier, j'ai vu un échange entre Trump et la journaliste Dana Bash. Je pense qu'elle est avec CNN ou quelque chose comme ça. Elle lui demandait « Est-ce que vous vouliez changer le régime à Téhéran ? Et est-ce que vous aviez déjà des candidats que vous avez prévus de prendre contrôle ?» Et Trump disait que oui, en effet, on parlait avec des personnes, mais désormais, ils sont tous morts. OK. Ça, c'était la première fois que j'ai vu Trump dire quelque chose qui indique qu'il n'est plus en contrôle, parce que s'il parlait avec des personnages à l'Iran qui il considérait comme Delcy Rodriguez, comme le prochain leader de l'Iran. Et ils étaient tués, mais Trump donnait l'impression que c'était pas eux. Oui. C'était pas les Américains qu'ils ont tués, mais les Américains qui voulaient les installer comme les prochains leaders. Mais après ce vidéo, il est disparu. Je voulais le trouver aujourd'hui. Il est disparu, il est plus là. Et tout ce que j'ai pu trouver, c'est des mots de Trump paraphrasés, mais changés pour de nouveau donner l'impression que c'est Trump qui a donné l'ordre de les tuer. Et parmi eux, les mots, c'est de Dana Bash. Mais la vidéo lui-même, il est disparu. J'ai essayé de le trouver avec Grok, avec... sur X, mais il n'est plus là. Donc, il se passe quelque chose d'extrêmement bizarre aux États-Unis. Je n'arrive même pas à comprendre.
N'arrivez pas à le comprendre. Merci Alex Reiner. Je reviens vers vous Thierry Messant. Vous nous disiez dernièrement, je vous avais mercredi en matinale sur GPTV, que la ligne américaine et la ligne israélienne étaient des lignes différentes.
Tout à fait.
Alors, est-ce que ça expliquerait en partie justement ce que vient de remarquer Alex Reiner sur « ils sont tous morts ».
Oui, mais ce n'est pas très rassurant.
Non.
L'initiative de cette guerre appartient à Israël et à Israël seul. Les États-Unis sont intervenus uniquement au bout d'une heure quand il s'est avéré qu'ils avaient tué le guide de la Révolution. Et il y a deux raisons à l'intervention des États-Unis. Premièrement, comme en juin dernier, ils voulaient contenir la colère d'Israël et éviter qu'Israël n'utilise une bombe atomique, parce qu'ils étaient prêts à le faire. Et deuxièmement, parce que Donald Trump est la seule chose qui compte pour lui dans tout ce qu'il fait depuis le début, c'est sauver économiquement les États-Unis qui sont au bord de la faillite, et pour ça, il a besoin des banquiers de la diaspora juive. Donc, il a suivi le mouvement. Mais ce que disait Alex tout à l'heure, il faut se rendre compte que non seulement les États-Unis n'ont pas de plan de rechange une fois que Israël a décapité l'Iran, mais ça n'est que le début. Les Israéliens sont en train de préparer le soulèvement de toutes les minorités du pays, à commencer par les Kurdes. Et c'est, on le voit, hein, ils sont déjà regroupés, ils forment un parti en Iran, en Irak, il y a des armes qui arrivent à travers l'Irak en Iran.
Ils sont armés par la CIA, par
le... Oui, ah, la CIA ou le Mossad, on ne sait pas, il n'y a pas de marqué qui envoie ça, mais les armes sont en train d'arriver et la semaine prochaine, ça va éclater.
Ça aussi, moralement, quand même, aboutir, alors qu'on prétend le faire pour la démocratie, à une guerre civile.
Ça, on prétend, c'est uniquement pour la télévision.
Pour la galerie, bien sûr.
C'est la manière de parler. Ce que les Israéliens veulent faire, c'est détruire l'Iran en plusieurs États.
Voilà.
Et ça va
semer un chaos
sous peu. Oui, c'est le chaos.
Et vous pensez qu'ils peuvent y arriver?
Je pense qu'ils sont en train de le faire. Et nous venons de voir, ça n'est que la suite de ce qu'ils ont fait en Palestine, au Liban, au Yémen et à Bahreïn, et en Irak aussi. Donc tout ça, c'est en train d'éclater. C'est la fin de l'axe de la résistance. La plus grande puissance militaire du Moyen-Orient est rasée.
De cette résistance à l'hégémonie israélienne.
Absolument. Encore qu'il y a plusieurs compréhensions, l'axe de la résistance. Hein. Pour certains, c'était la résistance à Israël, et pour d'autres, c'était la résistance à l'Occident. C'est complètement différent.
Bien sûr, oui. C'est la pointe avancée. Mais Édouard.
Alors moi, je suis moins pessimiste que Thierry, c'est-à-dire je suis d'accord sur l'intention.
Oui.
Pour moi, c'est évident. D'ailleurs, les cartes d'éclatement de l'Iran, elles circulent depuis des années. Alors on avait, il y a quelques mois, on avait un peu de mal à les trouver, mais on finissait par les trouver. Là maintenant, elles sont facilement accessibles. Hein, c'est un phénomène classique. On les a vu sortir aussi concernant la Russie après le début de la guerre d'Ukraine. Bon, mais justement, moi je pense que là où il y a une erreur peut-être fatale pour Trump, mais pas simplement pour Trump, je pense pour les États-Unis et aussi pour Israël. C'est que, visiblement, militairement, l'Iran tient le choc.
Alors voilà, ça c'est le deuxième spectre, voilà. la défaite militaire.
Et en particulier, on a l'impression, si vous voulez, d'une absence de stratégie du côté occidental. Peut-être est-elle liée à ce que disait Alex Reiner, c'est-à-dire que il y a deux lignes différentes et qui ne convergent pas, mais il y en a une qui pour l'instant a neutralisé l'autre. Israël a neutralisé ce que Trump voulait faire. Ça, je suis prêt à le croire. Mais moi, ce que je vois en face, c'est que du côté iranien, il y a une vraie stratégie. Ils ont détruit systématiquement les radars et tout l'appareil de surveillance électronique qui se trouvait dans les pays du Golfe. Ils ont affaibli systématiquement la possibilité pour les Américains et les Israéliens de voir venir les missiles, mais même les drones. D'autre part, on a une montée en puissance des missiles qui sont envoyés par les Iraniens, un peu comme pendant la guerre des 12 jours, mais moi ce qui m'étonne, c'est que ça va plus vite que pendant la guerre des 12 jours. Alors je sais qu'il y a une censure militaire qui est très forte. Malgré tout, Internet reste un endroit où on peut aller chercher beaucoup d'informations, et j'ai été, par exemple, extrêmement impressionné par les frappes hier soir sur Tel Aviv de missiles hypersoniques iraniens. Là, on a la confirmation que ces missiles existent.
Et qu'ils ont attendu pour les envoyer de saturer, peut-être de...
Alors, et c'est même plus ça. C'est-à-dire parce qu'on dit qu'il y a une décrue du nombre de missiles envoyés, mais effectivement, il y avait beaucoup de missiles envoyés pour saturer, et plus des drones, pour saturer les défenses. Mais en fait, les stocks américains semblent s'épuiser très vite, les stocks de Patriot et autres. Et donc aujourd'hui, alors c'est encore trop tôt pour discerner une tendance, définitive. Mais malgré tout, on est étonné de voir que l'Iran a tenu le choc des premiers jours et que, par ailleurs, l'Iran a porté des coups terribles, mais a une stratégie. Et en fait, on a d'un côté une stratégie qui est une stratégie militaire pensée, et de l'autre, je trouve, on a eu à peu près un but de guerre différent par jour, si on en croit la Maison Blanche.
Alors c'est ça.
Oui, oui.
C'est ça, Thierry Messant, un but de guerre différent chaque jour.
Oui, il n'y a pas de but de guerre, on ne sait pas ce qu'on va faire.
Alors, peut-être que, comme le disait Alex Reiner, les Israéliens, eux, savent ce qu'ils veulent faire.
Alors, eux, oui.
Mais en tout cas, du côté iranien aussi, on sait ce qu'on veut faire.
Il faut bien comprendre que les États-Unis, en détruisant le super radar des États-Unis au Qatar, ont rendu les États-Unis totalement aveugles sur tout le Moyen-Orient. Il n'y a plus pour eux la possibilité de détecter les lancers précoces. Donc, ils ne peuvent plus défendre leurs alliés.
Oui. Alex Reiner, quel est votre avis sur le thème là, qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire plutôt, cette fois-ci, le spectre de la défaite militaire?
Je pense que... Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. C'est inévitable. D'abord, vous savez, on est en train de parler d'une force militaire qui est très très loin de chez eux,
oui.
Qui n'arrivait pas à soumettre le Taliban après 20 ans d'essayer et qui n'a pas arrivé à soumettre les Ansar à Yémen. Et donc, l'Iran, c'est un pays beaucoup plus puissant. Il est la taille de l'Europe occidentale. Ils ont 92-93 millions d'habitants, ils ont une très grosse armée, et je crois qu'ils ont aussi prévu la possibilité de la chute du régime. Donc, comme Edouard Husson a dit, ils ont une stratégie qui est très très bien pensée, et je pense qu'ils ont probablement prévu, ok, si le régime tombe, alors... Là, probablement, ils vont adopter une stratégie comme Hezbollah, d'aller sous terre, de se cacher et de commencer une guérille. Donc, je pense que c'est complètement impossible pour les Américains de soumettre l'Iran, de mettre Shah à terrain et de penser qu'ils peuvent contrôler le pays à leur faveur. Je pense que ça, c'est impensable. Mais vous savez, la puissance de l'armée américaine, elle est plus dans la perception que dans la réalité, parce que déjà, je me rappelle avoir lu des documents du Pentagone, du département de la défense américaine, datés de 1991, où ils disaient que leur hégémonie dans la région dépendait de deux éléments. Un, c'est les alliances avec leurs alliés, principalement Israël, mais aussi l'Arabie Saoudite, et Qatar, etc. Donc, utiliser ces alliés comme les forces proxy. Et puis, l'autre élément, c'était la projection de pouvoir. Donc, pas pouvoir en vérité, mais projection, donc intimider les opposants quelconques d'accepter leur hégémonie. Et donc tous les deux, et déjà en 91, ils disaient que ça c'est très faible, ça c'est très fragile et ça ne va pas durer. Et là maintenant, sur l'exemple de Yémen, sur l'exemple d'Afghanistan, on le voit, parce que toutes ces opérations, ils dépendent de chaînes de logistique qui sont des milliers de kilomètres qu'ils doivent tenir, pas seulement pour les armées et la munition, mais aussi pour rester les troupes, pour les reposer, pour la nourriture, pour l'eau, etc. Et c'est très facile de rompre ces chaînes de logistique. Et ils sont déjà en effet rompus parce que rien ne peut entrer dans le golfe de Persique. Et donc, c'est extrêmement fragile. D'ailleurs, ils comptaient de tourner le régime au terrain dans 2-3 jours. Rien de ça est fait pour mener une guerre à long terme. Oui. Donc, ils sont déjà dans une situation très, très faible. Ils n'ont pas préparé les troupes pour effectuer une invasion. Ça, ils ont fait après, maintenant, avec les Kurdes, avec les Al-Qaïda, voilà. Avec tout ça. Mais c'est tard. Et encore une fois, l'Iran se prépare pour tout ça depuis 20 ans. Donc, je pense que la probabilité que les États-Unis peuvent vaincre à l'Iran, c'est probablement zéro.
Merci, Alex Reiner. Thierry Messant, ça fait 20 ans justement que l'Iran se prépare à cette guerre. Il y a ça aussi. Alors qu'on a l'impression que du côté américain, ça a vraiment été... Il y a une impréparation, il n'y a pas de plan B, il n'y a rien du tout.
Oui, y a pas
de... C'est la pensée magique. C'est, voilà, il suffit de dire les choses pour qu'elles se réalisent.
Oui. moi, je vois que les États-Unis n'étaient pas préparés au choc qu'ils viennent de recevoir. Que là, ils viennent de demander, nous, on a 400 000 personnes dans la région qu'on a du mal à rapatrier. Eux, ils ont 1 million de personnes qu'ils doivent rapatrier. 1 million. Et ils n'y arrivent pas. Donc, ils ont déclenché cette guerre, mais ils n'avaient pas prévu de retirer les personnes qu'ils ont exposées. Donc, c'est un niveau d'impréparation absolument incompréhensible. Et en plus, leur chef d'état-major leur a dit « Nous n'avons pas les armes pour faire ça. Mm-hmm. » Aujourd'hui, les États-Unis ont des armes pour continuer cette guerre, mais s'ils continuent cette guerre, ils vont devoir arrêter de soutenir en Ukraine et d'en faire ailleurs. Ils ne peuvent pas tout faire à la fois.
Alors voilà.
Donc, ils vont se trouver en face de leurs propres limites.
Mais avec cette même idée, cette même logique, que ce soit pour la Russie, où ça a été à peine évoqué, mais on peut l'approfondir, par Édouard Husson, que ce soit la Russie ou que ce soit l'Iran, essayer d'éclater en fait ces pays multiculturels. Ce qui, à mon avis, est quelque chose d'assez maléfique, hein, d'ailleurs, en soi.
Oui, alors c'est l'obsession des Iraniens d'arriver jusqu'à détruire l'Iran, et Benjamin Netanyahou a tout un tas de vraiment, c'est étonnant quand il parle, il fait référence au livre d'Esther, enfin c'est-à-dire au moment où les Juifs étaient en esclavage en Iran et où ils ont tué des Iraniens, mais en fait c'est le Shah d'Iran qui les a libérés, et ça il n'en est plus question. Donc il faut c'est très bizarre, il est borgne quand il parle du livre d'Esther, c'est juste pour justifier le massacre auquel il se livre.
Oui, là on revient sur l'aspect moral justement du massacre, Édouard Husson.
Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui se jouent. Ce qu'on a découvert ces derniers jours, c'est qu'effectivement, il y avait, par exemple, quand les officiers de l'armée américaine, les soldats, pardon, ont reçu des instructions apocalyptiques disant oui. « Vous menez la guerre de Jésus-Christ, c'est l'Armageddon, etc. » on se dit, ceux qu'on appelle les sionistes chrétiens, ils ont une emprise jusque dans le commandement militaire américain. Et alors, donc du coup, ce qui est étonnant, c'est que ça relativise complètement tout ce qu'on peut dire sur l'Iran. On veut absolument présenter l'Iran comme un pays obscurantiste.
Oui, voilà, c'est ça.
Et puis en face, on a des gens, dans le moins qu'on puisse dire, c'est que ils sont pas très éclairés. Donc ça, c'est une chose. Mais ce qui est, je reviens sur ce que vient de dire Thierry Messon, c'est que ce qui est étonnant aussi chez quelqu'un comme Netanyahou, c'est sa dualité. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un homme politique qui a pu survivre pendant 30 ans, qui a été au gouvernement là-dessus, je crois, plus de 25 ans, mmh. et qui est un réaliste. Et de l'autre, c'est quelqu'un qui gouverne aujourd'hui avec des sionistes extrémistes, qui laisse dire et peut-être encourage ceux qui veulent reconstruire le Troisième Temple. Donc on est là aussi dans de la pensée apocalyptique. Mais je voudrais insister sur le fait que pour moi, il y a un enjeu de civilisation pour la planète entière qui est oui. en train de se jouer. C'est-à-dire, vous avez très, très justement les uns et les autres souligné le côté ethno-culturel, l'obsession ethno-culturelle, faire éclater l'Iran selon ses nationalités. Et je pense qu'en fait, c'est un biais de l'analyse, alors dans le cas d'Israël, mais aussi dans le cas des États-Unis. Ça, ils sont très sensibles à ça. Et en face, qu'est-ce qu'on a ? Et là, je suis pas. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut sur le fait que tel pays est une démocratie, tel pays est une dictature. Mais pour moi, là, ce qui se joue, c'est autre chose. C'est l'Iran est un vieil État-nation. Oui. Certains disent même un État-civilisation. Oui. Et en fait, on sait que depuis des siècles, voire des millénaires, il y a des populations diverses qui sont intégrées. Alors, il y a eu aussi une politique de persification. Bon, mais exactement comme dans le cas de la France. Je veux dire, la France, il y a une grande diversité ethno-culturelle au départ, et puis il y a une politique de francisation, petit à petit. Mais je crois que ce qui se joue là, c'est précisément quel modèle va l'emporter. Est-ce que c'est le modèle ethno-culturel avec une capacité à créer le chaos et... Au fond, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui poussent ça, c'est des gens en même temps qui sont un cartel d'intérêts privés qui se sont ouais. emparés de l'appareil d'État américain. Et en face, vous avez un vieil État-nation qui est beaucoup plus familier pour nous si on regarde bien, parce que le modèle romain, on comprend ce que c'est. Ça fait penser à la Chine, ça fait penser à la Russie, avec le souci de... premièrement, de la paix civile pour éviter la guerre entre les ethnies. C'est ça, en fait, qui se joue. Et selon que l'un ou l'autre des adversaires actuellement gagnera, l'avenir de la planète est en jeu, de mon point de vue. C'est-à-dire que soit on aura plus de chaos, soit on aura une stabilisation...
Avec des États-nations
avec des États-nations
puissants.
Et voilà. Et je pense que c'est... On ne se rend pas compte que c'est ça qui se joue. Alors, ce que je dis va horrifier des gens qui veulent absolument le débat démocratie contre autoritarisme. Mais pour moi, c'est des choses beaucoup plus profondes qui se jouent Évidemment. Que simplement un cours de sciences politiques pour étudiants de première année rue Saint-Guillaume. On touche en fait aux fondations de la capacité des humains à coexister entre eux sur l'ensemble de la planète. Et c'est ça qui se joue. Et pour aller un peu dans le même sens qu'Alex Kreiner, j'ai été moi à la fois choqué, surpris, peut-être même un peu triste de voir que Donald Trump reniait ses engagements de campagne. Mais bon, voilà, tournons la page et demandons-nous ce qu'on va faire demain.
Oui. Thierry, mais ça. Oui.
Il y a un enjeu de civilisation qui est évident. Hein. Mais il faut comprendre ce qui se passe depuis maintenant 2 ans dans cette région. Il y avait ce qu'on appelle l'axe de la résistance, donc c'était l'alliance entre la résistance palestinienne, libanaise, irakienne, syrienne, bahreïni,
yéménite,
iranienne. Et cet axe de la résistance, c'est la Rijani qui l'a développé. Moi, j'ai connu la Rijani il y a 25 ans.
Ah
j'ai,
oui.
J'ai participé à un conseil...
Ah, vous connaissez bien, lui.
Oui, je participais à un conseil de défense de l'Iran. Je suis le seul Français à avoir participé à ça. la Rijani disait que la défense de l'Iran, ça passait par la mobilisation de toutes les communautés chiites dans le monde.
Ouais.
Il a étendu ça après... en Afrique et en Amérique latine, où il y a aussi des communautés chiites. Et puis, il s'est passé cette chose étrange en 2014, en Palestine. Il y avait jusque-là le djihad islamique qui était membre de l'axe de la résistance. Et il y a eu la refondation du Hamas, qui était une branche des frères musulmans, et qui en 2014 a accepté de faire rentrer en son sein des membres de la résistance palestinienne. Et ce n'est pas du tout la même chose. Les frères musulmans voulaient un califat, la résistance palestinienne voulait l'indépendance de la Palestine. Et à partir de ce moment-là, quelque chose n'a plus fonctionné. Parce que ce que le Hamas représentait, ça n'était pas cette unité pour résister à l'adversaire. C'était le projet d'un califat, c'est tout à fait différent. Et je pense que c'est la guerre du 7 octobre qui a provoqué ces explosions en chaîne qui aboutissent aujourd'hui à la destruction partielle de l'Iran.
Oui.
Je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête et que ici en France, on doit comprendre ce que c'est les gens qui ont soutenu le Hamas sans voir qu'une partie du Hamas, c'était les frères musulmans. Ces gens-là sont directement responsables de l'échec de l'Iran aujourd'hui.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at chumbacasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.